Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté. Aujourd'hui, nous nous intéressons à notre partenaire Médiacité Toulouse, avec lequel nous abordons des sujets en lien avec nos deux régions, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, où Podcasting est ancré. Cette fois, nous nous intéressons aux compagnies aériennes à bas coût, qui opèrent par exemple à La Rochelle, Biarritz, Bordeaux ou Toulouse, et elles ne seraient pas sans conséquence sur les aéroports de ces villes, mais aussi sur les finances publiques. EasyJet, Ryanair, Volotea, le low-cost peut-il ruiner les aéroports régionaux? C'est le titre de votre article paru dans Médiacité Toulouse. Bonjour Isabelle Jarjaille.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante spécialisée dans les finances publiques et l'aménagement du territoire. Vous travaillez notamment pour Mediapart, Ouest France ou donc Médiacité. Isabelle, d'abord un mot sur ces low cost. Quelles sont leurs particularités au-delà d'être moins chères par rapport à des compagnies classiques et quand sont-elles apparues en France ?
Alors, les low cost sont apparus dans les années 90. La première, c'est EasyJet en 1995, qui d'ailleurs vient de fêter ses 25 ans et mettait en avant le fait qu'elle avait révolutionné l'aérien à l'époque. Et donc, elles sont apparues dans les années 90 et elles se sont surtout beaucoup développées dans les années 2000. Et aujourd'hui, elles fournissent la majorité du trafic des aéroports régionaux, que ce soit par exemple Toulouse ou des aéroports comme Nantes, mais surtout aussi des tout petits aéroports locaux. Donc on peut penser à Agen par exemple ou à Pau, des tout petits aéroports. Et donc elles se sont vraiment développées sur ces tout petits aéroports et au final elles représentent en fait la majorité de leur trafic, mais du coup aussi c'est une question en fait de survie pour ces aéroports, c'est-à-dire que si les low cost disparaissent, ces aéroports risquent de disparaître avec eux. Souvent elles représentent vraiment la majorité du trafic aérien du coup de tout un territoire pour son développement économique.
Comment font ces compagnies pour être low cost, donc pour pratiquer des tarifs inférieurs à ceux du marché, Isabelle Jarjaille ?
Donc c'est un écosystème assez basique. D'ailleurs, c'est le patron de Ryanair qui se félicitait la semaine dernière dans la presse en disant que les compagnies qui allaient s'en sortir le mieux à l'issue de la crise, ce seront les low cost, notamment parce qu'elles sont capables, selon les mots du patron de Ryanair, de s'adapter rapidement et qu'elles en sortiront plus fortes, et grâce notamment à des hauts volumes et à des bas coûts. Donc ça, c'est lui qui l'explique. Les hauts volumes, en fait, c'est assez simple. C'est le fait que du fait qu'elles ne fonctionnent pas en correspondance, c'est-à-dire qu'elles ne se positionnent pas sur des trajets, elles sont pas dans un hub à Charles de Gaulle en lien avec le hub de Francfort où elles feraient des liaisons Bordeaux-Paris, Paris-Francfort et Francfort-Rome, par exemple. Elles ne se positionnent que sur des liaisons qui n'ont pas de correspondance. Ce qui leur permet d'ouvrir des lignes et de les fermer de manière très rapide. Ce qui fait que, par exemple, en ce moment, en pleine crise sanitaire, alors qu'on reconfine et que, a priori, on n'a pas le droit de prendre l'avion aujourd'hui, tout simplement parce qu'on n'a pas le droit de se déplacer, que ce soit en Europe ou sur le territoire français, on assiste dans la presse à des articles qui mettent en avant l'ouverture de lignes de low cost. Typiquement, dans Ouest France récemment, on avait un article sur l'aéroport de Rennes qui mise sur Volotea qui arrive et qui ouvre de nouvelles lignes pour Noël. Ce qui peut paraître totalement anachronique, alors à un moment où on n'a pas le droit de se déplacer. Et en fait, elles sont capables de le faire tout simplement parce qu'elles sont capables d'ouvrir plusieurs lignes sur une durée très limitée, en se disant on va tester à Noël 2020, peut-être jusqu'en février 2020. Et si ça ne fonctionne pas, hop, elles referment leur ligne, elles laissent tomber, elles s'en vont. Et c'est ce qui leur permet de faire de gros volumes quand la demande est là. Dès qu'elles sentent qu'il y a une demande, elles sont capables de faire de gros volumes. Et dès qu'elles sentent que cette demande se rétracte, hop, elles arrêtent la ligne. Et donc, c'est cette flexibilité qui leur permet pendant la crise de tenir le choc et qui leur permettra de s'adapter, comme dit le patron de Ryanair, à l'issue de la crise. Et cette flexibilité, elle est permise d'abord parce qu'elles n'ont pas de correspondance, mais aussi parce qu'elles n'ont pas de... Majoritairement, elles ont une flotte d'avions très faible. Elles louent surtout leurs avions. c'est du leasing, ce qui leur permet d'être très flexibles parce que quand elles peuvent ajuster leurs besoins en fonction de la demande, et quand elles ont moins de besoins, elles ont moins de charges fixes parce qu'elles mettent un terme à leur contrat de leasing. Donc c'est cette flexibilité, et la même flexibilité s'applique à leur charge de personnel parce qu'elles n'ont majoritairement, elles n'ont pas de personnel salarié, elles font appel à ce qu'on pourrait qualifier soit d'auto-entrepreneurs, mais il s'agit surtout de contrats anglais, soit ça équivaut un peu à de l'intérim, et ce qui fait qu'elles peuvent faire appel à leur personnel navigant quand elles en ont besoin, et le jour où elles n'en ont plus besoin, elles ne sont pas liées par contrat avec eux, ce qui leur permet encore une très forte flexibilité. La charge la plus forte pour elles, c'est le carburant. Sauf que le carburant, pour les compagnies aériennes, quelles qu'elles soient, est détaxé en France, ce qui leur permet de faire des économies. Donc c'est tout un écosystème qui fait qu'elles sont très flexibles et que dans une crise comme celle qu'on connaît aujourd'hui, elles ont vraiment la capacité de réduire la voilure quand c'est nécessaire et de redémarrer très très vite dès qu'elles sentent un frémissement. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me. Let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, let's take off in the blue.
Alors avec ce modèle économique, en quelques années, ces compagnies low-cost se sont taillées la part du lion. Vous l'écrivez, elles ont représenté par exemple 64% des vols à Nantes et 43% à Toulouse en 2019. À Bordeaux, on était à un peu plus de la moitié en 2018. Elles sont hégémoniques à Pau, à Agen par exemple, vous l'avez dit. Comment ont-elles réussi à connaître un tel succès? Ce sont uniquement leurs tarifs qui l'ont permis?
Alors effectivement, ce sont leurs tarifs qui leur ont permis de s'installer parce que ça leur a permis d'avoir une clientèle. Du coup, elles ont vraiment démocratisé le transport aérien, là où avant, dans les années 90, personne n'aurait pensé prendre l'avion pour partir en week-end à Lisbonne ou à Vienne ou à Rome. C'était réservé à une certaine population. Et avec, mécaniquement, avec la baisse des prix, elles ont augmenté la clientèle. Donc c'est pour ça et qu'elles ont réussi à s'installer. Et ensuite, elles ont réussi à proliférer parce que elles ont permis à des aéroports de rester en vie quelque part, c'est-à-dire que elles sont une solution pour certains aéroports qui n'ont pas assez de trafic, c'est l'excuse pour un aéroport pour rester en activité. En fait, c'est un jeu d'équilibre entre des collectivités locales, des élus qui veulent maintenir leur aéroport parce qu'ils sont persuadés que leur territoire a besoin d'un aéroport pour être compétitif économiquement, mais cet aéroport a un très faible trafic et le low cost leur permet en fait d'avoir le trafic nécessaire pour justifier l'existence de cet aéroport et surtout notamment son financement par les finances publiques. Donc en fait, elles ont profité de ce besoin que pensent avoir les collectivités locales d'avoir un aéroport, et en fait le low cost devient la condition pour maintenir l'aéroport.
Alors justement, Isabelle, vous venez de l'évoquer, et puis vous l'évoquez également dans votre article, la manière dont ces entreprises bénéficient d'un soutien financier de la part des pouvoirs publics. À quel titre et dans quelle proportion ?
D'abord, il y a plusieurs choses. Il y a eu des aides publiques directes pour ouvrir des lignes jusqu'à la fin des années 2000. Et d'ailleurs, Ryanair a été condamné au niveau européen contre ces aides directes parce que ça a vraiment créé une distorsion où les compagnies low cost ouvraient des lignes parce qu'elles avaient des aides affiliées à ces lignes. Et dès que le mécanisme d'incitation s'arrêtait, au bout de 2 ou 3 ans, elles fermaient la ligne et elles s'en allaient. Et l'Europe a condamné Ryanair à plusieurs reprises pour ces pratiques. Donc ces aides directes, aujourd'hui, sont interdites par l'Union européenne. Mais on continue à avoir des aides indirectes via les aéroports. C'est-à-dire que pour attirer le low cost, les aéroports font des réductions sur leurs redevances. Donc c'est relativement simple, c'est-à-dire qu'une compagnie aérienne, elle paye un péage pour venir garer son avion sur le parking et utiliser l'infrastructure de l'aéroport. Et pour attirer des low cost, les aéroports font des ristournes, leur disent bah, si vous voulez, nous, si vous ouvrez telle ligne, on accepte de vous faire le péage un petit peu moins cher, la redevance un petit peu moins chère. Sauf que sur des tout petits aéroports régionaux, le fait d'avoir moins de recettes met en péril l'équilibre économique de l'aéroport. Et donc, dans ces cas-là, c'est la collectivité qui est, notamment quand elle est propriétaire de l'infrastructure, qui va venir, en fait, subventionner l'aéroport pour compenser les pertes lorsqu'il fait des ristournes au low cost. Donc, c'est ce qu'on appelle des aides indirectes. La Commission européenne a ça en ligne de mire. Et en 2014, ils ont voté une directive qui, normalement, devrait faire en sorte qu'à partir de 2024, même ces aides indirectes soient interdites. Mais le problème, c'est que parfois, ces aides peuvent être quand même continuer à être mises en œuvre sous d'autres prétextes, notamment sous le prétexte de l'investissement plutôt que de l'exploitation de l'aéroport. Donc, pour l'instant, a priori, ça va continuer, surtout vu la situation aujourd'hui. Mais du coup, c'est comme ça que les low cost, elles, profitent d'aide publique indirectement.
Alors on en vient maintenant à l'actualité de ces compagnies aériennes. Elles évoluent dans un secteur en grande difficulté. 280 milliards d'euros de pertes durant le premier confinement. Le deuxième confinement, ça reste évidemment à évaluer. Mais c'était ce qu'avait estimé l'Association internationale du transport aérien. Quel impact cette crise a-t-elle sur les compagnies low cost? Est-ce qu'elles vont mal alors qu'elles annoncent régulièrement de nouvelles liaisons? Vous en avez cité une tout à l'heure, mais on peut citer aussi celle entre Biarritz et Lille, lancée récemment par Volotea.
Oui, donc en fait, effectivement, elles subissent des pertes, forcément, comme toutes les compagnies. Et d'ailleurs, EasyJet a annoncé les premières pertes de son histoire il y a quelques semaines. Mais ces pertes sont moins dures à supporter pour elles. D'abord parce qu'elles ont des trésoreries à l'origine. Avant la crise, elles avaient des trésoreries beaucoup plus importantes que les grandes compagnies nationales comme Air France ou Air Italia ou d'autres. Donc elles s'appuyaient d'abord sur une trésorerie beaucoup plus importante. Et ensuite, elles auront une capacité à redémarrer beaucoup plus vite. Et en plus de ça, en France, en juillet, le ministre de l'économie avait annoncé la fin des lignes en deçà de 2h30 quand on avait une liaison par train qui pouvait se faire en deçà de 2h30, comme un Paris-Marseille par exemple, donc Paris-Lyon, d'interdire la liaison aérienne parallèle dans un objectif de développement durable pour limiter le trafic aérien. Sauf que, évidemment, au regard du droit européen, la France ne peut pas interdire des ouvertures de lignes aériennes. Ce qu'elle peut faire, c'est interdire à Air France, dont elle est actionnaire, d'opérer sur ces lignes. C'est ce qui s'est passé. Sauf que, au final, ces lignes existent toujours et qu'aujourd'hui, elles sont récupérées par des low cost. Là où Air France s'est déjà désengagée, elles sont récupérées par des low cost. Et là où on touche un peu à l'absurde, c'est que c'est notamment la filiale low cost d'Air France, Transavia, qui s'est positionnée sur certaines de ces lignes. Donc, en fait, on voit que c'est toujours pareil. C'est comme dit le patron de Ryanair, c'est leur capacité d'adaptation, leur flexibilité qui leur permet de réagir très très vite. Et à chaque fois qu'il y a un mouvement dans le secteur aérien, elles arrivent à se positionner C'est de l'opportunisme, très clairement, c'est de l'opportunisme, et c'est cette flexibilité qui leur permet de saisir toutes les opportunités très rapidement.
Ces low cost sont dans un secteur qui va très mal, mais elles s'en sortent plutôt bien, notamment grâce aux finances publiques, mais ça ne les empêche pas de licencier et de tirer les conditions sociales de leurs employés vers le bas, c'est bien ça?
Voilà, de toute façon, ça fait partie de leur système économique, c'est que si le prix du billet est aussi bas, c'est essentiellement parce que leurs charges de personnel sont très faibles, et si leurs charges de personnel sont faibles, c'est parce que c'est leurs salariés, quand il y a des salariés, qui paient la différence. Donc c'est des salaires très bas, c'est surtout pas de salariés du tout, comme je disais, beaucoup d'auto-entrepreneurs et d'intérim. Et donc effectivement, les conséquences se retrouvent directement sur les personnels navigants. On a vu par exemple, là, depuis le début de la crise, j'ai en tête Wizz Air, je ne sais plus exactement le chiffre, mais je crois que les pilotes ont accepté une baisse de 14% de leur salaire. Elles modulent leur rentabilité sur leur charge de personnel notamment.
Alors Isabelle, pour en revenir au titre de votre article, en quoi ces pratiques fragilisent-elles les aéroports régionaux?
Alors en fait, le risque, c'est que d'abord, l'aéroport, pour avoir toujours plus de low cost, est obligé toujours de faire plus de réductions sur ses redevances, et donc derrière, il faut que quelqu'un compense ces réductions, et si l'Union européenne interdit vraiment ces aides indirectes, les aéroports vont être en difficulté parce que les collectivités ne pourront plus financer ces réductions de redevances. Donc ça, c'est la première chose, ce qui peut aboutir à des fermetures. Quand on a des aéroports qui dépendent à 90% de low cost, ça, ils peuvent fermer purement et simplement face à la baisse du low cost. Ensuite, il y a la fin des aides publiques, mais il y a aussi le débat autour du transport aérien au regard d'une transition durable et écologique, et le fait qu'on peut aboutir à que ça peut évoluer vers une demande d'avoir un prix plancher pour les billets. D'ailleurs, il y a un syndicat des pilotes qui a commencé à évoquer le sujet. Et donc l'idée d'arrêter justement le low cost et d'arrêter les prix extrêmement bas des billets avec tout ce que ça peut comporter, soit en termes d'impact social, soit en termes d'impact environnemental, parce que c'est ce qui permet de développer énormément le trafic aérien. Et donc si on arrive vers un prix plancher pour les billets, ça veut dire que typiquement les compagnies aériennes vont demander à payer beaucoup moins cher en redevance ou vont arrêter d'opérer certaines lignes qui seront plus rentables pour elles. Et donc les aéroports qui ne dépendent que du low cost se retrouveraient tout simplement sans trafic. Mais après, ça pose aussi la question de l'intérêt de ces aéroports. D'une manière générale, est-ce qu'ils sont vraiment indispensables? Parce que par exemple, il y a un chercheur qui expliquait que quand un aéroport dépend essentiellement du low cost, l'impact sur le développement économique du territoire est très faible, parce que les passagers low cost sont vraiment des personnes qui viennent juste à l'aéroport pour prendre leur avion, et on n'est pas du tout sur du tourisme ou des gens qui viendraient, par exemple, je sais pas, qui viennent de Picardie pour aller prendre un avion à Lille pour partir en vacances. Mais comme on est sur des low cost, on est sur une clientèle qui limite énormément ses frais. Donc on n'est pas sur une clientèle qui va se dire, on va en profiter pour passer un week-end à Lille et puis loger à Lille et aller consommer à Lille et faire du tourisme à Lille avant de partir en vacances. On est sur une clientèle qui réduit au maximum ses coûts. Donc au final, l'impact sur le territoire est très très limité lorsqu'on favorise le low cost. Et c'est pour ça que certains chercheurs mettent en avant l'incohérence du fait que ces lignes low cost et ces aéroports soient financés par de l'argent public, alors que l'impact pour l'intérêt général, pour le territoire en général, est très faible.
Dernière question, Isabelle, qu'est-ce qui peut mettre fin aux pratiques de ces compagnies low cost? Est-ce que c'est la justice, le législateur? Est-ce que l'on sent une volonté de changer la donne à l'heure où, en plus, le trafic aérien a de moins en moins la cote?
Alors, clairement, c'est la question du prix du billet et des taxes. Et donc, ce sont, par exemple, les propositions de la Convention citoyenne sur le climat qui ont été rendues en juin et qui demandent notamment à mettre en place une nouvelle taxe sur les billets d'avion qui augmenterait mécaniquement le billet d'avion. Donc, ce genre de système, ce type de taxe mettrait forcément un coup d'arrêt à énormément de trafic low cost, mais on n'en est pas encore là, parce que même si Emmanuel Macron, au sortir de la Convention citoyenne pour le climat, a dit que ses propositions faisaient partie de celles qu'il retient, une première réunion était prévue en septembre, mais les associations environnementales comme Greenpeace ont refusé de s'y rendre sous prétexte qu'elle trouvait que là, il y avait beaucoup trop de place donnée au lobby aéronautique et aux entreprises de l'aéronautique. Et depuis septembre, rien n'a été fait, la réunion n'a pas été reportée. Et on est clairement face à une difficulté entre, d'un côté, une exigence environnementale et de l'autre, une exigence sociale, qui est qu'on est dans un territoire français et plus particulièrement toulousain, qui dépend énormément, où il y a énormément d'emplois qui dépendent de ce secteur, et où on voit bien la difficulté entre cette volonté de réduire le trafic aérien, mais de ne pas pénaliser les entreprises qui en dépendent. Et donc là, on est vraiment sur un choix à faire très, très cornélien pour les pouvoirs publics.
Merci beaucoup Isabelle Jarjaille d'avoir été avec nous. Votre article s'appelle « EasyJet Ryanair Volotea, le low cost peut-il ruiner les aéroports régionaux ?» Il est à retrouver sur le site de Mediacité Toulouse. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feignet, Mathilde Leuil et Marion Riault, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcasts ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.